Et on commence ce journal avec une annonce qui a fait grand bruit ce week-end. Elon Musk, encore lui, a présenté sur YouTube les nouveaux implants cérébraux de sa société Neuralink.
Et on y voyait Gertrude, un cochon qui vit depuis 2 mois avec l'une de ses puces. Il s'agit d'un modèle sans fil, aussi grand qu'une pièce de monnaie, et qui est implanté juste sous le crâne, à fleur de cortex. Alors cet implant serait capable de détecter l'activité neuronale liée à l'activité du museau de l'animal. Et pour prouver la sécurité du procédé, on y voyait aussi un autre cochon en bonne santé à qui l'on avait retiré l'un de ses implants. Alors depuis 2016, le milliardaire travaille sur des interfaces cerveau-machine, restaurer le mouvement de personnes paralysées, suivi médical jusqu'à la communication par télépathie. Les applications recherchées sont nombreuses et il y a des perspectives d'essais cliniques sur l'humain. Mais les implants cérébraux à usage thérapeutique, c'est une histoire vieille de 30 ans déjà. Hervé Schneweis est président du comité d'éthique de l'INSERM et dirige un laboratoire de neurosciences à la Sorbonne. Il reste sceptique.
Il y a 2 volets. Le premier, c'est que Neuralink, là, s'inscrit clairement dans une dimension santé. C'est pas le cas pour toutes les entreprises de neurotechnologie qui sont concurrentes de Neuralink. L'autre élément, c'est qu'il n'a pas présenté grand-chose et que ça sent quand même la communication pour récolter des fonds parce qu'il y a une course forte sur ces domaines. Clairement, ce qu'il a montré, en tout cas ce que j'en ai vu sur YouTube, n'est pas renversant. C'est essentiellement de l'enregistrement d'une activité cérébrale, en tout cas c'est ce qui est dit. Parce que c'est juste des images qui sont montrées, donc on n'a pas d'éléments qui prouvent ce qui est dit. Et d'autre part, une affirmation que le système serait sûr, puisque on pourrait retirer ce système. Et puis aussi, le fait que le système fonctionne sans fil, alors que la plupart des dispositifs cerveau-machine actuels fonctionnent avec des fils qui sont reliés au dispositif. On est assez sceptique dans la mesure où c'est d'abord un travail énorme depuis 30 ans de la communauté académique, alors ça prouve rien, mais il y a quand même beaucoup de monde sur le sujet, et que c'est vraiment un sujet très important et très difficile. Il suffit pas d'enregistrer l'activité cérébrale, il faut être capable de l'interpréter, de l'analyser. Là, ce qu'il prétend, c'est que ça serait beaucoup plus léger à mettre en œuvre comme appareil. Et après, on ne sait pas qu'est-ce que ça nécessiterait comme entraînement et comme apprentissage. Ça, il faudrait que le dispositif soit utilisable déjà chez l'homme. On en est bien loin.
Voilà, et puis on va vous remettre le lien également sur notre fil Twitter @laméthodefc vers l'émission que nous avions consacrée à Elon Musk. En finira-t-on un jour avec Elon Musk? La question que nous avions posée à la fin de la saison précédente. On vous met ça sur Twitter et sur la page de l'émission La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Aux États-Unis, où on approche des 6 millions de cas confirmés de Covid-19, la FDA, l'administration américaine des médicaments, se dit prête à diffuser un vaccin en cours de développement.
Mais le vaccin américain en phase 3 n'est pas arrivé au terme de son essai clinique. Il lui manque encore quelques mois afin de ne plus avoir de doute sur sa sécurité et sur son efficacité. Le patron de la FDA a déclaré hier être prêt à interrompre ses essais pour délivrer une autorisation d'utilisation d'urgence. Il fait valoir la balance bénéfice-risque. Mais dans la course au vaccin, les experts de la santé rappellent que brûler les étapes est contraire à l'éthique et donner un feu vert trop vite risque de fragiliser la confiance du grand public ainsi que les mécanismes de réglementation de cette technologie.
Selon une étude parue dans Nature Climate Change, pour survivre aux sécheresses, les oiseaux tropicaux cessent de se reproduire.
Avec des vagues de chaleur records de plus en plus régulières et partout sur la planète, est-ce que les espèces peuvent s'adapter à ces conditions de plus en plus difficiles? C'était la question posée par ces chercheurs américains pendant leurs travaux sur le terrain pendant 17 ans en Malaisie et au Venezuela. Ils montrent qu'en pleine sécheresse, la reproduction des oiseaux tropicaux peut réduire jusqu'à 50%, une tactique qui leur permet d'augmenter leurs chances de survie dans des environnements extrêmes. Ce papier pointe une autre conséquence des changements climatiques sur les écosystèmes et montre que nous sous-estimons la plasticité comportementale des espèces animales.
Et enfin, selon une étude parue dans Nature Communications, lorsqu'elles sont sur le point de mourir, les bactéries émettent des cris de mort pour avertir les autres bactéries.
L'agonie des bactéries, vous imaginez bien qu'elles ne produisent pas de hurlements ni même aucun son. Il s'agit plus exactement de nécrosignal ou de nécrosignalisation, des signatures chimiques. Cette équipe américaine a mis en évidence d'évident ce phénomène en observant les essaims bactériens de E. coli et leur interaction avec des antibiotiques. D'une part, les bactéries mourantes expriment ces nécrosignales et d'autre part, ces signaux guident le comportement des bactéries survivantes. Elles organisent alors leur résistance face à la menace et se réunissent en essaim pour mieux combattre les attaques d'antibiotiques.
Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences.